L'actualité, on en parle avec Jean-Yves Bretot et son invité.
Et pour le retour de On s'en parle politique, je reçois aujourd'hui sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et radioalpa.com Christine Taforo-Hardy, première secrétaire fédérale du Parti Socialiste de la Sarthe, secrétaire du Conseil Régional des Pays de la Loire, où vous siégez, dans le groupe d'opposition de la gauche unie Le Printemps des Pays de la Loire. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'avoir accepté mon invitation. C'était le 20 décembre dernier, Christelle Morançais, la présidente de la région Pays de la Loire, et ses élus de la majorité ont voté la suppression de toutes les aides au monde de la culture, aux associations de prévention des violences faites aux femmes, aux missions locales ou encore aux clubs sportifs ou à l'agriculture. Une décision assumée par la présidente de la région face à la dette de la France. Le gouvernement de Michel Barnier demandait 40 millions d'économies aux régions. Christelle Morançais en fera plus en faisant voter 82 millions sur les 100 millions d'économies annoncées au départ. Une décision revendiquée aussi face aux perspectives d'une économie régionale dégradée, l'une des compétences principales des régions étant d'ailleurs le développement économique, contrairement à la culture, qui n'est qu'une compétence partagée avec d'autres collectivités. Mais pour la présidente de la région, des décisions justifiées pour préparer l'avenir des jeunes, ne pas leur laisser une dette colossale de la France. Les jeunes. C'est sur ce thème que les élus de la gauche unie à la région, avec le député socialiste Guillaume Garot, ont décidé de donner un rendez-vous ce samedi 24 mai de 9h30 à 14h pour une matinée du printemps. Ce sera à la guinguette du Jardin de l'Éperon, à Ancenis-Saint-Géron, en Loire-Atlantique. Christine Taforo-Hardy, quelle est la démarche de cette matinée qui s'intitule « Coupe budgétaire, quel avenir pour notre jeunesse ?»
Alors, cette démarche s'inscrit dans ce que vous avez énoncé à l'instant, hein, c'est-à-dire les coupes brutales de Christelle Morançais et de sa majorité de droite lors du budget de 2024. Des coupes dont on commence réellement à ressentir les effets, mais qu'on soupçonnait et qu'on savait que de toute façon ça allait arriver et qu'il y allait y avoir des conséquences, forcément. Donc, des conséquences, moi j'ai rencontré le CDF, FF de la Sarthe, donc c'est moins 26 000 euros, avec des incidences derrière, ça veut dire que c'est moins de permanence ici ou là, concentré davantage sur les grandes villes, donc en priorité bien sûr Le Mans, et donc ça veut dire que sur nos territoires, et c'est la même chose pour le planning familial, c'est moins de permanence et de déplacements sur tout le territoire sarthois. Donc ça veut dire que nous, sur les territoires, puisque moi je suis originaire de l'Homme, dans le Sud-Sarthe, ça veut dire que plus on est éloigné de la ville et moins on a encore de services qui nous sont proposés. Et même si on constate à travers les chiffres que les violences diminuent, on sait qu'à l'intérieur, par contre, les violences intrafamiliales, elles augmentent. Donc il y a un vrai sujet, il y a une vraie préoccupation et en fait, la présidente de région, elle nie cette situation en supprimant des aides pareillement au planning familial ou que ce soit... au CDIFF. Et c'est pareil, je suis allée à l'AG du relais au Mans. Au foyer relais, oui, au Mans. Et pour parler, moi, ce qui me concerne plus directement par rapport à la commission dans laquelle je siège à la région, c'est l'école de la deuxième chance. Et c'était extrêmement touchant humainement parlant parce qu'on a eu des témoignages de jeunes qui, en fait, ont parlé de leur parcours. Pourquoi ils sont arrivés dans cette école de la deuxième chance? Pourquoi ils n'ont pas un parcours plus linéaire comme certains? Et en fait, il y a soit des épreuves de vie, hein, des difficultés liées à la santé ou autre, et puis il y a quelquefois le problème de ne pas arriver à rentrer dans les cases que représente un peu quand même l'éducation nationale. Et donc, ces jeunes, ils étaient désœuvrés, ils ne savaient plus vers quoi tendre, quel serait leur futur, leur avenir. Et ils ont eu cette chance d'être orientés vers l'école de la deuxième chance qui a subi une suppression de 150 000 euros de subventions de la région. Une vraie inquiétude avec un nombre de places contractualisées qui passe de 90 à 80, c'est-à-dire qu'ils perdent 10 jeunes dans l'histoire, 10 jeunes qui ne seront plus encadrés, 10 jeunes qui vont être désœuvrés, 10 jeunes qu'on retrouvera peut-être dans la rue à un moment donné et qu'on utilisera ensuite pour parler d'insécurité. C'est ça qui ne va pas. On doit être à la base, on doit être dans l'accompagnement humain. Et c'est ce que j'essaie de faire entendre dans ma commission. Quand j'entends le développement des formations hybrides, c'est-à-dire à distance pour la plupart, comment est-ce qu'on peut inciter et accompagner un public qui est éloigné de l'emploi depuis longtemps, qui a la tête sous l'eau, parce qu'il y a tellement de contraintes à côté pour eux qui ne savent plus comment faire, comment on peut les inciter à suivre une formation à partir du moment où on le fait à distance et qu'il faut utiliser l'outil informatique. Tout le monde ne le maîtrise pas forcément, quoi. Alors moi, je veux bien que cette école, quand même, de la deuxième chance, elle a été inaugurée il y a seulement un an et demi, avec des fonds de différentes collectivités. Il y a le Mont Métropole, par exemple. Et sur la photo, il y a Madame Morancet et des élus hein, qui sont tous souriants. Un an et demi plus tard, on leur enlève 150 000 euros. C'est hallucinant et c'est insupportable. Et c'est d'autant plus insupportable, toutes ces subventions supprimées, que je découvre un jour en arrivant à la région ce panneau qui annonce des travaux dans la région, 955 000 euros hors taxes de peinture et de moquette, avec le terme accessibilité quand même pour faire passer la pilule un peu, pour qu'on soit moins critique peut-être sur l'action. Et en fait, c'est pour mettre du bleu qu'elle a qualifié elle-même, hein, Christelle Morancet, de bleu Morancet. Moquette bleu Morancet, peinture bleu Morancet, dans le conseil régional. 955 000 euros hors taxes. Parce que l'accessibilité qu'ils ont ajoutée pour faire passer la chose plus facilement, elle était existante déjà. Il y avait toutes ces rampes qui étaient là. Puis après, il y a les ascenseurs. Sauf que le prétexte de l'accessibilité, c'est qu'elle a mis des grands panneaux bleus devant ses rampes. Mais on est où ? 955 000 euros hors taxes quand on va supprimer des subventions qui sont vitales pour localement et pour le dynamisme et pour l'accompagnement de ceux qui ont le moins, qui possèdent le moins.
Alors c'est Christelle Morancet, effectivement, la présidente de région qui est du parti Horizon, qui a impulsé cette baisse drastique des subventions de la région aux associations, au monde de la culture, aux affaires
monde
sociales,
sportif,
etc., aux missions locales, ouais, etc. Et pourtant, j'ai envie de dire, les élus de sa majorité ont suivi la présidente de la région. Est-ce que ça veut dire que l'ensemble de la majorité régionale d'aujourd'hui est d'accord avec cette décision qui a été impulsée par sa présidente ?
Ah ben, elle est forcément d'accord à partir du moment où ils ont tous voté pour lors de la session du budget. Enfin, moi, je me disais, il y a quand même des élus qui vont se dire, mais ce n'est pas entendable. Sur nos territoires, on ne peut pas supprimer des services, on ne peut pas supprimer des moyens au monde associatif.
Alors ça, c'est ce qu'ils disent en off.
Oui, mais sauf qu'ils sont élus et ils doivent aussi, ils sont censés se préoccuper du territoire et des habitants de leur territoire. Et à un moment donné, même si elle a pris sa décision toute seule ou ils l'ont pris à deux, trois, ils n'étaient pas d'accord. Déjà, ils auraient dû l'exprimer. Et puis après, si on n'est pas d'accord, on n'en arrive pas au point où lorsque Madame Morancet est arrivée dans l'hémicycle, Jean-Luc Catanzaro était le premier à se lever à l'applaudir et tout le monde s'est levé pour l'applaudir. Donc si on était mal à l'aise, élu de droite avec ses décisions, eh bien on ne l'aurait déjà pas exprimé de cette façon-là et on aurait essayé de lutter contre. Et on a entendu des choses terribles lors de la session du budget de décembre dernier. Terrible, jusqu'à nous traiter d'autistes, ça a été d'une violence et irrespectueux. Quoi. Irrespectueux, moi j'ai un collègue qui a un enfant autiste, ça l'a d'autant plus touché. Quoi. Je trouve qu'ils se sont comportés d'une façon qui était insupportable, irrespectueuse envers nous, la minorité, alors qu'on est la minorité, donc ça avait de grandes chances de passer. Qu'est-ce qui faisait qu'ils avaient besoin d'être autant agressifs, autant violents envers nous ? Parce qu'on pointait des choses qui allaient se passer ? Parce qu'on pointait les dysfonctionnements à venir. Je ne sais pas si vous avez vu l'article de presse, là, je crois que c'est Ouest France aujourd'hui, avec tous les postes qui vont disparaître encore à la région. Hein. Voilà, des contractuels qui
avaient été annoncés, hein, d'ailleurs, suppression de postes.
Oui, sauf
alors,
que
pas,
là...
Alors, pas licenciement voilà. Brut, mais
oui, sauf que là, on est en plein dedans, et avec toujours cette méthode hyper violente, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun accompagnement, quoi. Le coup prétend, déjà, ils ne savaient pas qui ça allait toucher. Cette annonce dans le hall du conseil régional. Et là, ça arrive violemment comme ça, les gens ne savent pas. Alors, il y a l'écologie, on fait une croix dessus. Enfin, c'est hallucinant tous les domaines que ça touche.
Au regard de ce que vous nous rapportez par rapport à l'ambiance du conseil régional, il y a une nouvelle session depuis. Est-ce que vous pensez qu'au même titre que ce qu'on peut observer en France, il y a une forme de radicalisation dans les échanges entre les élus et les partis politiques ?
Mais moi, je le constate, hein, parce que nous, il nous renvoie la gauche. Alors, il y a deux groupes à gauche d'opposition au sein du conseil régional.
Alors, les gauchistes, pour Christelle Morancet.
Voilà, et on est toujours ramené à l'image que véhiculent LFI pour essayer d'amoindrir notre parole. Sauf que nous, on essaie d'interpeller, de montrer que ça ne fonctionnera pas, de dire les conséquences qui vont être mises en place, d'être porteur d'autres propositions. Parce que c'est bien beau, quand elle prend la parole, nous dire « mais vous n'avez rien à proposer ». Mais on ne fait que ça. On ne fait que ça. On a alerté sur la filière automobile. Ça fait des mois. On a demandé un plan pour la filière automobile. C'est quand même 30 000 emplois sur la Sarthe. C'est vital. Et on voit les fermetures qui s'annoncent ici ou là et dernièrement encore à Mamers. C'est 500, 400 établissements pour nous. Enfin, économiquement parlant, ça a un impact. Donc, et qu'est-ce qu'on voit ? On acte des fermetures. C'est tout. On a demandé ce plan en amont. On savait que la filière automobile allait être impactée avec les mesures prises, etc. Donc il fallait l'anticiper et être dans l'accompagnement. Et pas au niveau de l'emploi, juste répondre à des demandes parce qu'on a besoin ici ou là avec ce dossier qu'elle a mis en place, c'est-à-dire ce processus. C'est un emploi, il y aura une formation. C'est plus on forme les gens, donc on leur impose déjà. Vous voulez un emploi, eh bien, il faut suivre cette formation, même si ça ne vous convient pas, vous devez le faire. Et en fait, nous, on lui avait dit que ça ne fonctionnerait pas. Et elle ne l'a pas reconnu, sauf qu'elle a modifié le fonctionnement. Parce qu'en fait, il fallait un engagement des entreprises pour embaucher la personne qui prenait en stage. Sauf que les entreprises, leur difficulté, c'était de dire, nous, on veut bien prendre un stagiaire, mais c'est au fur et à mesure qu'on va découvrir, est-ce qu'il va être capable de s'impliquer pleinement dans l'entreprise ? Est-ce qu'il correspond vraiment au profil qu'on attendait et tout ?
Est-ce qu'il se sent bien ?
Mais est-ce qu'il se sent bien ? Voilà. Est-ce que lui, il a aussi envie ? Et en fait, ça ne fonctionnait pas. Les entreprises prenaient moins de stagiaires.
Alors, Christelle Morançais a justifié aussi sa décision de supprimer les subventions parce qu'il est attendu une dégradation de la situation économique en pays de la Loire. Est-ce que vous aussi, vous percevez une dégradation de la situation économique puisque c'est l'une des compétences principales des régions ?
Alors, oui, on le voit, les incidences de fermeture. Mais enfin, il faut quand même rappeler l'histoire au tout début. Hein. L'État a demandé un effort de la région, c'était 37,7 millions d'euros au départ. Madame Morançais, sa réponse a été 80 millions. Moi, je donnerais 80 millions à l'État.
Et encore, elle avait prévu 100 millions.
100 millions, c'est vrai qu'elle avait évoqué les 100 millions. Ouais. Finalement, c'est 40 millions et on est à 82 pour la région. Donc, ça veut dire qu'elle elle demande à tous de faire un effort supplémentaire pour des décisions faites, un budget qui n'est pas géré comme il se devrait par l'État, parce que le déficit, il est beaucoup plus important là ces dernières années. Enfin, c'est la responsabilité d'Emmanuel Macron et de tous ses gouvernements. Et après, on fait porter la responsabilité aux collectivités, parce que c'est un effort demandé aux régions, c'est un effort demandé aux départements qui souffrent déjà, les départements, hein, avec tout ce qu'ils ont à prendre en charge, et puis les collectivités. Et les collectivités, en fait, territoriales, donc les municipalités, sont les dernières de cet échelon, mais les premières vers qui les citoyens et les acteurs se tournent pour dire « nous, on a besoin d'aide ». Mais sauf que les municipalités ne peuvent pas répondre à tout. Et en fait, se décharger, là, se dédouaner en disant que la culture, c'est donc une compétence partagée, donc elle n'a pas obligation. Mais ça veut dire qu'elle renvoie aux autres collectivités. Parce que la culture, c'est quoi ? Ça contribue à l'ouverture d'esprit des citoyens, ça contribue à prendre confiance en soi, ça contribue à tisser aussi des liens entre les citoyens, et c'est le dynamisme d'un territoire. Parce qu'un festival qui ferme, c'est toutes les retombées économiques sur tout le tissu économique autour qui va s'en ressentir. Donc ça a un impact sur beaucoup de choses. Donc c'est trop facile de dire, moi je me décharge, enfin je me retire, et puis en fait c'est les autres, débrouillez-vous quoi.
Et pourtant on peut pas dire
ça a été
Christelle...
pareil avec la maison médicale par exemple sur la métropole du Mans.
Pourtant on peut pas dire que Christelle Morançais soit pas sensible à la notion économique.
Ah, elle est sensible à la notion économique, mais à sa propre vision des choses. Voilà, il faut toujours En fait, c'est là où on voit qu'il y a un grand écart en fait, entre nous, parce qu'elle oublie constamment l'humain. Ça doit être la rentabilité à tout prix, de quelque façon que ce soit. L'humain, il n'existe plus, c'est du chiffre. Et en fait, on ne peut pas. Et quand on est aussi intéressé par l'aspect économique, eh bien, on se doit d'avoir une politique qui anticipe. Et là, l'exemple que je prenais avec la filière automobile, elle n'a rien anticipé. On le savait que cette filière automobile allait être fragilisée, eh bien, c'était à la région d'être aux manettes avec les entreprises, avec tous les acteurs concernés, pour voir comment on pouvait amoindrir ce qui allait se passer.
La décision de la présidente de la région Pays de la Loire s'appuie sur la loi NOTRe qui a été votée en 2015, hein, sous la présidence de François Hollande. C'est la dernière loi sur la décentralisation qui a supprimé aux collectivités des compétences générales par des compétences principales, à l'exception de la culture qui est une compétence partagée, avec ce qui vient de se passer là en région Pays de la Loire, rien ne contraint une région à apporter son soutien à une compétence partagée avec les autres collectivités ?
Mais non. Et j'ai regardé dans le contrat...
Donc la loi est mal faite.
Et il va falloir s'y pencher réellement, parce que là, en fait, il y a en plus... C'est un choix politique, mais c'est un choix surtout idéologique.
Parce qu'on se souvient qu'à l'époque de 2015, la question de la culture était extrêmement débattue sur la décentralisation.
Mais je pense qu'à un moment, enfin, vu ce qu'on peut observer autour de nous, il va falloir à un moment sanctuariser le budget de la culture. Enfin, on ne peut pas faire autrement. Parce que quand on enlève des moyens comme ça à la culture, c'est le premier signe aussi d'une mainmise complète du politique sur les citoyens. C'est la première chose qu'on fait. Et on voit ce qui reste à la région, en fait. C'est plutôt tout ce qui touche au patrimoine et surtout le patrimoine religieux non protégé. Alors les communes, elles prennent en charge. Nous, on l'a fait chez nous, ce n'était pas protégé. On a refait la toiture, etc. Enfin, on le fait parce que ça fait partie de notre patrimoine, de notre culture. Mais dire que la culture ne se résume pratiquement plus qu'au patrimoine, avec Fontrevraud qui est quand même représente une somme importante, c'est déjà quelque chose qui nous interpelle. Et celui qui l'a porté, qui a parlé à l'oreille de la présidente Alexandre Thébault, bien, quand on voit son parcours et la personne de qui il est réellement prêt, ça interroge réellement, parce que M. Stérin, ce n'est pas n'importe qui. Alexandre Thébault, c'est la nuit du bien commun. Donc tout ça, ça reflète une idéologie bien particulière, avec un fonctionnement et une mainmise sur le citoyen et le formater à ce qu'ils veulent.
Alors Jean-Luc Catanzaro...
Je vais peut-être loin, mais là, je pense qu'on s'oriente là-dessus.
Jean-Luc Catanzaro, que vous avez cité, qui est un vice-président de la région et qui représente d'ailleurs la présidente sur le territoire sartois, par rapport aux décisions qui ont été prises sur la culture, dit oui, ok, on a supprimé les subventions aux structures, mais on a investi pour la culture. Donc ça veut dire que finalement la culture est maintenue que sur des investissements concernant
Le patrimoine.
Le patrimoine.
Voilà, ça se limite à ça. Donc c'est une pirouette qui ne ressemble à rien, quoi. Qui ne ressemble strictement à rien. Il dit quoi Jean-Luc Catanzaro là par rapport à ce qui se passe à l'école de la deuxième chance? Moi je lui poserai la question. Je vais la lui poser. Parce qu'il est quand même, il a un parcours qu'on connaît tous.
Une sensibilité et sociale.
Et il s'est investi avec cette association, Un Toit pour...
Un Sourire, Un Toit.
Un Sourire, Un Toit, voilà. Qu'il remet
pour
de
les
temps en temps sur les réseaux sociaux,
rue,
sur devant de la scène. Oui, et bien on va les retrouver où ces jeunes?
Alors c'est étonnant ce que vous nous rapportez par rapport à ces jeunes, parce que l'une des décisions pour laquelle s'est défendu Christel Meurancier, c'est aussi la jeunesse. Est-ce que finalement cette jeunesse est un prétexte ou c'est véritablement une préoccupation dans les décisions de la présidente de région?
Et vous avez dit la jeunesse, et c'est bien ce que je lui avais dit en session. Elle aurait dû parler des jeunesses, parce que c'est pas juste l'image de la jeunesse qu'elle a. On est confronté à différents types de jeunes, donc on doit les accompagner au mieux à partir de ce qu'ils sont pour les emmener tous le plus loin possible. Et en fait, ce n'est pas cette vision-là. On doit rentrer forcément dans un moule avec eux. Mais on n'a pas tous
nés. Ah, c'est quoi ce moule? Dans quel moule on doit rentrer?
On doit avoir forcément une éducation, on doit avoir un parcours et on doit avoir le goût de l'effort, l'envie, etc. Mais quand on est issu d'un milieu très modeste, quand on est issu d'un milieu qui, en fait, on n'a pas sa place pour différentes raisons, ou un milieu dont on a été extrait et on a été placé, la vie, elle n'est pas la même. On ne rentre pas dans la vie de la même façon. Et notre avancée dans la vie et notre façon de se projeter, elle n'est plus du tout la même. Il y en a qui ont une charge mentale beaucoup trop lourde dès qu'ils sont jeunes pour pouvoir progresser comme les autres. Et on voit bien aussi la mainmise et l'orientation, c'est que beaucoup de choses maintenant vont être présentées sous la forme d'appels à projets. Les appels à projets, on sait bien, on met des critères. On n'aura plus que des choses qui correspondront à une vision bien précise de Mme Meurancier et de sa majorité de droite. Et ça interpelle réellement.
Vous soulevez une discrimination parmi les jeunes?
Alors, je ne dirais pas qu'il y a une discrimination. Je dirais qu'il y a des choses qui m'interpellent dans l'accompagnement. Parce que quand on parle de la jeunesse, on devrait parler des jeunesses. Et c'est de tous ces jeunes. Et ces jeunes de la deuxième chance-là, elle n'est pas venue à l'âge. Jean-Luc Catanzaro non plus. Ça aurait été bien qu'ils écoutent ces jeunes. Voilà, c'était extrêmement poignant d'entendre leur parcours et de se dire « j'ai réussi et là au moins j'ai de l'espoir ». C'était ça et j'ai eu de l'humain. Entre quand nous, je le redis toujours, il faut de l'humain.
Entre nous, Christine Taforo-Hardy, est-ce que les élus de la majorité de Christelle Morançais sont très à l'aise, finalement? Est-ce qu'ils se sentent les bienvenus là où ils devraient être pour représenter la région, puisqu'on observe la vacance de certains sièges où ils siègent?
S'ils ne sont pas à l'aise avec leur propre vote, c'est à eux. S'ils ont un problème de conscience, ça ne va pas être mon souci, là, vous voyez, parce que moi, mon souci, c'est les femmes qui subissent des violences chez elles et qui n'auront personne vers qui se tourner, c'est les enfants qui ne seront pas accompagnés. Voilà, on est dans tout ça. Et c'est ce qu'on laisse aux autres collectivités, c'est débrouillez-vous avec ce que moi, je n'assume plus. Voilà. Moi, je demande, par exemple, 2 millions d'euros pour le Big Bang de l'emploi chaque année. Quelles sont les retombées réelles? Quel est le bilan? On va arriver à la troisième édition. Ça fait depuis le début, donc deux éditions, que je demande, avec mes collègues de la minorité, un bilan pour voir ce qu'il en est, savoir déjà qui vient, etc. Enfin, c'est encore, je ne sais pas si vous y êtes allé cette année, mais moi, ça m'a extrêmement marqué, je l'ai dit au vice-président André Martin. Quand je suis arrivée, en fait, on dit qu'il y a des, elle nous dit qu'il y a des entreprises partenaires donc, qui participent financièrement parlant. En fait, on ne les repère même pas. C'est noyé dans ce bleu qu'elle qualifie elle-même de Morançais. Tout était bleu, je lui ai dit, mais comment, pourquoi elles ne gardent pas leur logo, les entreprises qui viennent? C'est comme ça que nous, les citoyens,
On les identifie, oui.
Ben voilà. Donc, pourquoi est-ce que tout ça s'est noyé? En fait, on a l'impression que c'est auto-centré, tout est auto-centré, et qu'il faut que ce bleu règne partout. Alors que, enfin, je trouve que même que c'est irrespectueux pour les entreprises en question.
On est à 5 mois, là, maintenant, de la décision de la présidente de région et de sa majorité. On observe déjà des grosses difficultés, hein, suite à ces coupes budgétaires. On peut en citer quelques-unes. Il y a l'annulation de nombreuses programmations par c'est le ça. Théâtre régional des Pays de la Loire. Ces baisses de recettes, bien évidemment, entraînent des licenciements. Mmh. Des licenciements aussi dans les radios associatives et des appels aux dons pour éviter des fermetures, puisque toutes les radios associatives, mais aussi LMTV, Sarthe n'ont plus de financement régional pour 2025. Le Festival des Affranchis à la Flèche qui réduit sa programmation. Le CDFF de la Sarthe sur l'accompagnement des femmes et sur ses permanences. On en a parlé il y a quelques instants. Et bien d'autres situations qui sont mises à mal depuis cette décision de la présidente de région. Comment les élus de la gauche unie qui siègent au Conseil régional vont-ils justement se saisir de ces situations lors des prochaines plénières de la région? Et je pense peut-être à une décision modificative des orientations qui ont été décidées en décembre. Est-ce que ça, c'est possible?
Alors déjà, ce que l'on fait, c'est qu'on a, nous, le groupe du Printemps des Pays de la Loire, avec notre chef de file, Guillaume Garraud, on a une rencontre qui est programmée dans chaque département pour convier les acteurs touchés par ces décisions, tous les acteurs de tous les domaines, que ce soit sportif, parce qu'on oublie aussi l'image des Pays de la Loire. Quand on a une athlète de haut niveau qui est obligée, par rapport aux coupes de subventions de Mme Morançais et de sa majorité de droite, d'aller dans un autre club. Quand elle va faire des jeux, alors je ne sais plus si c'est les JO ou je ne sais quoi auxquels elle doit participer, mais si elle gagne, si elle est sur le devant de la scène, ce que je lui souhaite fortement, eh bien en fait, la reconnaissance va être pour le club qui en fait ne l'a pas formée à l'origine, mais qu'elle a dû rejoindre parce qu'il n'y avait plus de fonds suffisants dans son club à Nantes pour lui permettre de pratiquer son sport de haut niveau. Donc, on a tout ça. Donc, nous, on est en train de faire, on a déjà commencé, on rencontre les uns les autres, et puis on a ces événements par département pour rencontrer les acteurs et faire un point sur la situation. Et après, on essaiera toujours de porter et d'être force de proposition, mais on sait bien, enfin, c'est, voilà, on essaie, on le fait, mais on est dans la minorité.
Donc là, le rendez-vous, la matinée du printemps, c'est ce samedi 24 mai en Loire-Atlantique, à Ancenis-Saint-Girons. Ça veut dire qu'il y aura d'autres rencontres de prévues dans d'autres départements, dans d'autres villes, d'autres communes
de la région.
C'est ça,
il y en a une qui doit avoir lieu, là, j'attends que Guillaume Garraud me confirme la date, mais il y en a une dans la Sarthe qui doit normalement avoir lieu au mois de juin.
Alors, Guillaume Garraud, qui est la tête hein,
du groupe du Printemps des Pays de la Loire.
Bruno Retailleau a été élu président du Conseil régional des Pays de la Loire de 2015 à 2017, avant que Christelle Morançais, qu'il avait désigné d'ailleurs, lui succède à la région. Le ministre de l'Intérieur vient d'être largement élu comme président du Parti Les Républicains, avec plus de 74% des voix face à Laurent Wauquiez. Du 13 au 15 juin prochain à Nancy, les militants socialistes devront eux aussi choisir une candidature à la tête du parti lors du 81e congrès du Parti Socialiste à Nancy. Les candidatures doivent d'ailleurs être déposées jusqu'à lundi. Qu'est-ce que vous attendez comme projet pour le Parti Socialiste, rapidement, sachant que la Fédération Sartoise s'est distinguée des autres fédérations contre toute alliance avec la France Insoumise?
Une ligne, ce que j'attends du parti, c'est un changement complet. Voilà, c'est avoir une ligne claire, précise, que les Français et les Françaises puissent savoir ce que l'on porte, là où on va et où on voudrait les emmener. C'est avoir un fonctionnement qui soit plus vertical comme il est maintenant, que le militant retrouve sa place pleinement dans ce parti. Et nous, on soutient le texte d'orientation C de Nicolas Meyer-Rossignol parce que c'est un texte d'orientation de rassemblement. C'est le texte d'orientation numéro 3 de Nicolas Meyer-Rossignol depuis le congrès de Marseille, le texte d'orientation numéro 1 d'Hélène Geoffroy, qui est maire de Vaux-en-Velin, depuis le congrès de Marseille. Nous sommes tous rassemblés, puisque nous, on soutenait le TO1 d'Hélène Geoffroy. Nous sommes tous rassemblés et est venu nous rejoindre aussi Philippe Brun, qui a une expérience, alors c'est un jeune député, hein, mais qui a une belle expérience parce qu'en fait, il est élu de l'heure et en fait, c'est le seul député à ne pas être Rassemblement National. Donc, il a mis en place une école de... j'ai oublié le nom. Une école de l'engagement, pardon, qui permet de donner des pistes et de savoir comment on peut procéder. Parce que nous, ce qu'on a besoin, c'est de savoir comment lui, il a fait pour faire face au Rassemblement National. Et moi, j'attends un parti qui travaille, parce qu'on a des parlementaires, députés ou sénateurs qui travaillent, mais le parti lui-même, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il porte, on ne sait pas. Moi, sur la filière automobile, je ne peux pas vous dire ce que le parti porte, c'est ça qui est terrible.
Donc Olivier Faure, pour vous, ne fait pas l'affaire.
Mais ça fait 7 ans qu'il est là. 7 ans, et qu'est-ce qu'on propose aux gens? Quel est notre projet? En fait, on a suivi le parti a suivi la France Insoumise, hein. Ça a été le programme de Jean-Luc Mélenchon, ça a été le programme de Jean-Luc Mélenchon avec le NFP, un peu moins marqué, mais c'était quand même ça. Et puis on voit où ça nous emmène.
Merci Christine Taffaro-Hardy de votre participation à notre émission de la rédaction, reprise avec des invités de la représentation politique départementale. On rappelle que vous êtes la première secrétaire fédérale du Parti Socialiste de la Sarthe et secrétaire du Conseil Régional des Pays de la Loire, où vous siégez dans le groupe d'opposition de la Gauche Unie, le Printemps des Pays de la Loire, qui est conduit par Guillaume Garou, qui est d'ailleurs député socialiste. On rappelle que les élus régionaux de gauche donnent un rendez-vous ce samedi 24 mai de 9h30 à 14h sur le thème coupe budgétaire, qu'est l'avenir pour notre jeunesse. Ce sera Alain Gaguet du Jardin de l'Éperon à Ancenis-Saint-Géron en Loire-Atlantique. On sait qu'il y aura d'autres rendez-vous qui sont prévus dans d'autres départements et on signale également que le collectif sartois de lutte pour la culture Convergence 72 sera ce samedi 24 mai à la fête interculturelle des quartiers sud du Mans pour rencontrer le public. Merci et merci à Frédéric Chauveau pour la réalisation technique de cette émission.